Et c'est l'heure du grand débat à 8h37 avec une nouvelle formule. Trois experts et de la rédaction et trois invités. Nos trois invités, c'est Virginie Robert, présidente de Consente Associée. Marc Fiorentino, bon, c'est un peu de la maison, mais elle le chiffre aussi.
Mais vous mettez où, moi?
Je sais pas où vous mettez. Allez, premier titre.
Tout le monde est de la maison.
Premier titre du grand débat, les GAFAM à la peine. Et on ouvre avec Anthony Morel pour nous rappeler ses résultats des 5 GAFAM qui sont pas très bons.
Non, c'est clair, pas terrible du tout. Des résultats inférieurs aux attentes, des perspectives qui sont pas terribles non plus. Si on devait avoir un point commun, parce qu'il y a quand même des situations différentes entre les différentes entreprises, c'est que, et tombent un peu de leur piédestal. C'est-à-dire qu'on les a cru intouchables, avec des années de croissance ininterrompue, et là on se rend compte que c'est des entreprises comme les autres, qu'elles peuvent être amenées à réduire leurs coûts, présenter des résultats décevants. Quand on regarde dans le détail, c'est vrai qu'on voit que, à chaque fois, ce qui est clair, c'est que l'impact macroéconomique, il se fait sentir. L'inflation, donc les priorités des consommateurs qui changent, on le voit chez Amazon, les gens, ils ont plus d'argent ou moins d'argent à lâcher sur la plateforme.
Chez Apple aussi.
Chez Apple, c'est, on a moins d'argent pour s'acheter le dernier iPhone. Chez Microsoft, les ventes de Xbox en berne, c'est la même chose. Même chose, les craintes de récession qui font que les entreprises maîtrisent leurs coûts, donc les coûts publicitaires, et ça touche de plein fouet Google, évidemment. Les réseaux sociaux, on le voit dans les chiffres de Meta également.
La pub
digitale qui baisse. On le voit aussi, les budgets informatiques des entreprises qui sont en baisse d'habitude, c'est le cloud qui rattrape un petit peu le tout. Et là, le cloud, c'est moins bon que d'habitude. Ça reste des croissances à deux chiffres quand même, mais c'est moins bon que d'habitude. Alors, le dernier point commun, c'est que toutes ces entreprises essayent de nous offrir des perspectives à long terme. Elle nous dit, bon, là, c'est pas terrible, mais là, avec l'intelligence artificielle, vous allez voir ce que vous allez voir dans les trimestres qui viennent. Et notamment, ils sont tous en train de préparer la riposte à ChatGPT qui a un peu accéléré le calendrier, que ce soit Microsoft, Google, Meta. Ils nous ont tous parlé d'intelligence artificielle.
Virginie Robert, on entend ce que dit Anthony Morel. Oui, mais en bourse, ça s'est bien passé après les résultats.
Ça s'est bien passé parce qu'on a eu une année, 18 mois précédents.
On a perdu 3 900 milliards de dollars de capitalisation sur les 5.
On a eu ce que j'appelle le gros de-rating. Et d'ailleurs, en est, c'est que Meta, qui a bien rebondi et qui a largement rebondi, même on peut dire ça, c'est celle qui avait été le plus attaquée. Donc il y avait quand même des anomalies. J'entends tout ce que dit Anthony. Il y a pas de, c'est très vrai, tout était tout à fait vrai, mais heureusement qu'elles tombent de leur piédestal quelque part, parce que ce sont les conditions pour la concurrence de demain. Si ces boîtes, elles ne se réinventent pas, si elles ne continuent pas, et ce sont le point commun, Anthony, de ces sociétés, c'est les capex, c'est les budgets R&D. Ouais. Quand vous avez du 20 à 30 à 40, même Amazon, alors on ne sait pas trop parce que dedans, dans Amazon, il y a aussi le contenu du streaming pour la vidéo. Mais c'est des énormes budgets. Et donc, c'est les sujets de demain aussi. Ouais. Et quand vous avez du 20, 30, 40 milliards, elles sont incontournables.
Mais ils baissent quand même, parce qu'Apple, par exemple, qui annonce qu'il y aura très peu d'innovation cette année, qui baisse ses investissements pour les
consommateurs. Comme depuis des années.
Oui. Apple, c'est alors. Apple, c'est un autre. Ils ont chacun leur rythme, leur stratégie. Et Apple, on le voit dans les résultats, c'est les services qui grignotent petit à petit. Et c'est tant mieux. Et c'est ça. Parce qu'on parle aussi de l'intelligence artificielle. Enfin, ils en parlent. Mais il faut bien comprendre que l'intelligence artificielle, ça n'a d'intérêt s'il y a beaucoup de data depuis longtemps et en grande masse. Et là aussi, elles sont effectivement très bien positionnées. Donc, elles ne sont pas...
Meta, Virginie Robert, plus 100% en 90 jours.
On avait vu Netflix qui a fait 100%.
Après des baisses monstrueuses. Après, il faut rappeler quand même que retour à la normale, c'est quand même des entreprises. 2400 milliards de capitalisation boursière pour Apple encore. Ouais. 1400 milliards pour Google. On est sur des entreprises, comme dit Anthony, qui sont plus que des entreprises, c'est des secteurs à elles seules. Et d'ailleurs, quand on les regroupe, on ne devrait pas les regrouper. Parce qu'on a des sujets qui n'ont rien à voir. Apple n'a rien à voir avec Google. Google est frappé par la baisse de la publicité digitale. La baisse de la publicité digitale, elle est frappée par la baisse des levées, qu'on salue toujours avec beaucoup d'enthousiasme, des techs. Les techs et les start-up qui lèvent moins, dépensent moins d'argent dans la pub digitale, et donc c'est normal que ce soit touché. Donc on a des entreprises qui sont quand même des entreprises qui sont hors sol aussi. On est un peu dans le cas de LVMH. Alors LVMH ne déçoit jamais. Là, on a une petite déception, mais une petite déception qui est vraiment marginale et qui est limitée et qui est liée, et c'est important ce qu'a dit Anthony tout à l'heure, à des conditions macroéconomiques. Elles sont tellement énormes qu'elles sont aujourd'hui des capteurs de
tout ce qui se passe. Mais c'était pas toujours le cas. C'est-à-dire qu'avant, on avait l'impression qu'il y avait des connexions. Là, il y a quand même...
Non, il n'y avait pas des connexions entre la réalité des résultats. Il y avait une déconnexion des valorisations. C'est-à-dire que ce sont des entreprises qui bénéficient. D'ailleurs, on le voit, le Nasdaq explose parce que la liquidité revient. C'est-à-dire que ce sont des entreprises qui réagissent à la liquidité. Et à partir du moment où on a des anticipations de baisse de taux d'intérêt et que la liquidité revient, évidemment, le secteur repart.
Emmanuel,
Ah, je crois qu'il y a plusieurs dimensions. Il y a la dimension conjoncturelle. Alors mettez là-dedans effectivement l'inflation, mettez ce que j'appelle aussi les conditions de marché globalement avec la liquidité, les corrections, etc. Et puis il y a quand même du plus structurel. Le plus structurel, c'est que on peut plus vraiment parler de valeur de très forte croissance. C'est-à-dire qu'on arrive quand même sur beaucoup de ces marchés. On arrive à une forme de maturité. Regardez le marché du smartphone. Quand vous voyez que 90% des Français ont un smartphone. Quand vous voyez le taux d'équipement sur beaucoup de ces technologies, bon bah on se dit on rentre quand même maintenant dans une forme de maturité où vous avez des taux de croissance qui sont plus forcément avec moi j'ai une inquiétude. Enfin moi j'avoue que de toutes ces entreprises là, celle qui me paraît la plus fragile, c'est quand même Apple. C'est-à-dire que malgré la situation actuelle, innovations d'Apple depuis 10 ans.
Mais pour le coup, c'est du hardware, c'est du solide. Ouais. Ils vont continuer à en vendre tous les ans des smartphones.
Solide, mais la valeur ajoutée, elle sera plus là.
Oui, mais
la valeur ajoutée, elle est plus dans les.
Non, mais justement, c'est l'écosystème. Tim Cook, il l'a bien dit hier soir, c'est 2 milliards de devices actifs. 2 milliards sur les innovations de demain.
Actifs et captifs,
Avec le service, la santé, tous les sujets transversaux, je veux dire, ils seront là demain. Et c'est pour ça qu'ils progressent petit à petit. Et cette fonction hardware, elle aura vocation probablement à réduire, à perdre du poids sur les années qui viennent. Non, je pense que c'est...
Alors qu'Anthony, peut-être que Google, le moteur de recherche menacé par ChatGPT et tout, c'est compliqué.
Pour le coup, eux sont obligés de se réinventer et donc de faire des paris qui sont peut-être plus risqués. Donc la riposte à ChatGPT, Amazon s'est misé sur le cloud notamment. Ils nous disent un truc très intéressant, Amazon, 90% des budgets informatiques ne sont pas encore dans le cloud. D'ici 10 ans, ils le seront. Donc c'est aussi un gros potentiel.
Rappelons juste quelque chose de très important. Ce ne sont pas des entreprises comme les autres, ce sont des entreprises qui ont des tonnes de cash et qui ont zéro endettement.
Ouais. Alors deuxième sujet... Ça fait débat entre Laure et moi, on n'est pas d'accord. Oui. C'est celui des taux d'intérêt.
Absolument. Vous disiez les marchés anticipent une baisse des taux d'intérêt. Puis il y a ceux qui pensent que ça va continuer parce que l'inflation est toujours forte. En fait, juste faire un point avec Antoine. Hier, clairement, après l'intervention de Christine Lagarde, on a plutôt entendu que ça se normalisait sur les taux.
Ça se normalisait, oui, c'est-à-dire qu'on ne sort pas du canevas prévu. On attendait de la fermeté, on attendait 50 points de base. On n'attendait peut-être pas forcément l'affirmation qu'il allait directement y avoir 50 points de base de hausse des taux le mois d'après. Mais globalement, ça suit le canevas qui était prévu. Il n'y a pas vraiment de surprise. Je pense que si les marchés ont très bien réagi à toutes ces annonces, et tout ça s'est fait aussi dans le sillage de la décision de la Fed, c'est qu'en début de semaine, et c'est vrai qu'on en a parlé, puis je vous en avais parlé un petit peu tôt le matin ces derniers jours, il y a eu une sorte de psychodrame à Wall Street pendant quelques semaines avec tout un tas d'analystes et de grandes voix de Wall Street qui disaient attention, on est au bord de l'éclatement d'une bulle spéculative, la Fed va relever ses taux en fait de 50 points de base parce que les pressions inflationnistes ne se réduisent pas. Bon, finalement, tout ce beau monde en a été pour ses frais, et en particulier un des tenants de cette thèse qui était Michael Burry, hein, le vrai trader du film The Big Short, qui avait dit sell dans un message Twitter. Bon, il a effacé son message puis il a effacé son compte par la même occasion, donc bon, on est revenu à la raison, et il y avait sans doute cette petite pression qui pesait sur les marchés qui s'est envolée en fait avec les décisions des banques centrales qui ont été effectives, et globalement on sort pas des clous, et c'est perpétuellement sans doute la question que se posent les marchés. Déjà, est-ce que Marc disait à propos de la tech était bon, c'est-à-dire qu'il reste beaucoup de liquidités sur le marché malgré ces hausses de taux, et que globalement on reste sur on regarde le chemin qui a été fait par rapport à l'année dernière, et on se dit que finalement, par rapport à ce canevas, il y a encore des stratégies possibles.
Alors chacun y a compris ce qu'il voulait y comprendre, vers à moitié plein, vers à moitié vide. Est-ce que les taux, c'est fini la hausse des taux? Est-ce que ça va continuer parce que l'inflation sous-jacente est encore là? Virginie, vous en pensez quoi, vous?
Moi, j'en pense que s'agissant de la Fed, on est revenu sur une politique de petits pas, les 25 basis points, enfin point de base, donc c'est ça qui a rassuré le marché, mais on n'a aucune certitude, parce que on a des questions en suspens. On ne sait pas quelle va être... Il y a la question chinoise, et probablement que ça peut remettre quelques tensions sur les prix. Et donc,
il l'a dit d'ailleurs, Jérôme Powell.
Mais oui, et je crois que de toute façon, eux-mêmes, sont au sein de la Fed, ne sont pas, n'ont pas de certitude. Ce qu'on sait, c'est que c'est la politique de petits pas. Donc ça, c'est bien. Voilà. Et il a acté qu'il y avait un processus de ralentissement de l'inflation, mais on n'est peut-être pas encore au bout de la hausse des taux.
Marc, pour vous, on est passé sur un pivot.
Oui, oui. Alors pour moi, c'est clair. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui, on était en panique parce qu'on se disait l'inflation va jamais s'arrêter de monter. Elle a arrêté de monter, elle décroît, et elle va décroître et l'accélération de la baisse de l'inflation va être spectaculaire. Pourquoi ? Parce qu'on le sait, le prix des matières premières, enfin tout ça, le ralentissement de l'économie aux États-Unis, tout ça, c'est clair. Donc aujourd'hui, on est dans une situation qui est hyper claire. C'est-à-dire il y a juste un décalage de phase entre l'Europe. Je rappelle que les taux sont à 2,5%, ils sont à 4,5% aux États-Unis, ils sont à 4% en Angleterre, donc on est un peu en retard. On est un peu en retard, mais la suite des événements, on la connaît. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui une ou deux hausses des taux aux États-Unis de 0,25 dans les cordes. En Europe, on va avoir 0,50, peut-être encore une hausse de 0,25 ou deux hausses de 0,25. Mais en tout cas, pourquoi les marchés sont aussi euphoriques ? C'est parce qu'ils voient la fin de la hausse de l'inflation et puis ils voient le pivot sur les taux d'intérêt. C'est-à-dire qu'on est à quelques semaines, mois de la pause. À la fin du semestre, il n'y aura plus de hausse des taux.
Vous avez compris quoi, vous, Emmanuel ? Vous avez compris que c'est la fin de la hausse des taux ou qu'il y a de la certitude ?
Moi, je trouve que l'horizon est assez borné. Je suis assez d'accord avec Marc. C'est-à-dire qu'on voit bien que le plafond des 5% aux États-Unis sur les taux de la Fed sera très probablement pas dépassé. Que le plafond des 3,5% en Europe sera pas dépassé non plus. Ce qui risque d'arriver, c'est qu'on va être dans un timing un peu différent de ce qu'on a connu au cours des cycles passés. Parce que ce qui a quand même été assez exceptionnel, c'est la rapidité de la hausse. Si vous prenez en Europe, il faut rappeler que en juillet, on était encore à zéro. Hein, donc ça a été très rapide. Par contre, ce qui est probable, c'est que le plateau sur lequel restent en général les taux d'intérêt entre la dernière hausse et la première baisse sera peut-être un petit peu plus long.
Et pas forcément, parce que si on a un décrochage violent parier, de l'inflation,
j'ai toujours parié sur le fait qu'il y aurait des baisses de taux d'intérêt avant la fin de l'année.
Virginie,
Il faudra considérer quand même la situation macroéconomique et la situation des marchés financiers, parce qu'ils ne sont pas insensibles aussi. Et on le sait, ils ont envoyé des messages. Donc, moi, je serais un petit peu plus prudente, parce qu'on entendait, on parlait déjà même de baisse des taux, voire de baisse des taux dans un ralentissement 2024, prononcé. Mais certains parlaient même de fin 2023. Ça, je crois qu'il est vraiment trop tôt pour l'envisager.
On est quand même dans une situation aujourd'hui, si on observe juste les chiffres, qui est presque idéale. C'est-à-dire qu'on a un ralentissement de l'économie. C'est pour ça que les marchés sont euphoriques. On a un ralentissement de l'économie, mais on n'a pas de récession. Mais suffisamment de ralentissement pour que l'inflation décroît. L'inflation décroît et les taux d'intérêt commencent à stabiliser.
Allez, troisième débat ce matin. Faut-il avoir honte des profits des compagnies pétrolières ? Et on commence, d'abord on va vous dire quels sont les profits avant de connaître celui de Total Energy le 8 février, la semaine prochaine, Thomas Schnell.
Oui, il y a eu les 55 milliards de profits de l'américain ExxonMobil qui ont été dévoilés, c'était hier. Il y a eu Shell, le britannique cette fois, qui lui a dévoilé 40 milliards de dollars de profits pour l'année 2022. C'est du jamais vu pour le groupe centenaire, des super profits qui préfigurent ceux des autres majors, Total Energy, donc mercredi prochain, BP encore, et Shell qui affiche donc plus du double de l'année dernière, 19 milliards de dollars grâce à l'envolée des prix des hydrocarbures qui ont été tirés par le rebond de la demande post-pandémie, également par le retrait progressif des exportations russes. Et de part et d'autre de l'Atlantique, on entend les critiques fusées, obscènes pour les syndicalistes qui critiquent ces montants. Shell profite de la destruction du climat et de l'immense souffrance humaine, dénonce Greenpeace au Royaume-Uni. Des appels à taxer davantage ceux qui tirent profit de la guerre en Ukraine de la part des travaillistes britanniques. Il y a bien une taxe exceptionnelle à 35% qui existe au Royaume-Uni depuis le printemps 2022, mais elle ne coûtera que 100 millions de dollars à Shell, qui assure ne réaliser que 5% de ses bénéfices au Royaume-Uni. Du côté des États-Unis, il est temps que Big Oil fasse sa part, réclame la Maison-Blanche à ExxonMobil. Joe Biden a bondi après l'annonce des 55 milliards de dollars de profits, ce qui empêche les grandes compagnies pétrolières d'augmenter leur production et leur décision de verser des milliards aux actionnaires au lieu de les réinvestir pour les bénéficiaires, explique Joe Biden, le président des États-Unis. Je fais ma part pour baisser les prix, qu'ils fassent la leur.
Virginie Robert, c'est pas un débat qu'on a juste en France. On voit, on entend les États-Unis, on entend Joe Biden dire qu'il va falloir faire attention aux profits. Enfin, c'est quand même incroyable.
Non, mais il y a plusieurs éléments parce que les ces pauvres entreprises quand même, parce qu'elles ont, elles prennent tout finalement. Hein. On leur a dit pendant un certain temps, ben, faut fermer, faut plus investir parce que vous êtes sur une matière, un sous-jacent qui n'a plus d'avenir.
Le pétrole, les hydrocarbures.
Voilà, absolument, les énergies fossiles. On leur a dit ensuite, ensuite il y a eu la crise et la politique budgétaire, monétaire, qui fait qu'on s'est retrouvé quand même dans ce choc d'offres et demandes. Et puis maintenant, on leur dit, ben, oui, vous en avez profité, il faut rendre l'argent. Donc c'est quand même assez injuste. Moi, je trouve, pour ces entreprises. Je pense qu'il faut, de toute façon, à partir du moment où elles sont entreprises, elles ont cette liberté d'investir. Exxon, ils sont déjà sur de l'investissement, sur des énergies, même du diesel renouvelable, etc. Je ne suis pas spécialiste en la matière, parce que nous, c'est un secteur qu'on ne suit pas, mais néanmoins, c'est leur devenir de demain. Donc, de toute façon, on peut quand même leur faire confiance, et je trouve que c'est un débat qui est quand même un petit peu...
Oui, mais l'argument aux États-Unis, c'est de dire, Marc, vous allez faire des rachats d'actions, vous faites des dividendes, vous ne réinvestissez pas ces profits dans le renouvelable.
Oui, alors ce qu'il faut, d'abord, et puis en plus, le vrai sujet, et c'est celui qu'a soulevé Virginie, c'est qu'aujourd'hui, ces entreprises, on va bientôt avoir l'interdiction d'investir dans ces entreprises. Ça commence à être le cas avec les critères
ESG,
ISR, durable, impact, enfin tout ce que vous voulez imaginer. Et on est dans une situation qui va être une situation paradoxale, c'est-à-dire qui va investir dans ces sociétés et qui, en fait, va profiter du fait que pour les 10-15 ans qui viennent, ces entreprises vont faire des profits qui vont être des profits monstrueux.
Les fonds d'investissement texans et américains qui font du anti-ESG.
Exactement. Et donc il va falloir faire un choix dans sa gestion, c'est-à-dire qu'il va falloir avoir une gestion dans laquelle on va afficher qu'on est bien vert, et ça va être la gestion dite institutionnelle.
Et avec le bras gauche, on va faire la gestion de l'investissement des hydrocarbures. Et bien le chip, ce débat, vous allez voir la semaine prochaine sur RMC, vous allez parler de ça.
Évidemment.
Les profits de Total Énergie.
Oui, sauf qu'il y a un problème de vrai temporalité entre l'horizon de l'investisseur qui est et la logique de l'investisseur qui est extrêmement binaire. C'est-à-dire soit j'investis, soit j'investis pas. Et puis l'inertie des comportements et des besoins. C'est-à-dire qu'il y a de toute façon une catastrophe qui se prépare, puisque on ne veut plus investir et on décourage d'investir dans l'industrie pétrolière, alors qu'on va avoir besoin de plus en plus de pétrole au cours des 20 à 30 prochaines années. C'est-à-dire que rappelons-le, la transition énergétique, c'est quelque chose qui n'existe pas, qui n'a jamais existé.
On remplace pas une énergie par une autre.
On n'a jamais remplacé une énergie par une autre. Et donc là, vous fabriquez.
On fait progressivement.
Exactement. C'est-à-dire qu'on a, en gros, on n'a jamais consommé autant de charbon, autant de gaz, autant de pétrole, et puis viendront s'ajouter encore les énergies renouvelables, etc. Mais vous voyez bien qu'on va vers une catastrophe annoncée. C'est-à-dire si on n'investit plus effectivement dans le pétrole, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Peut-être vraiment inciter ces entreprises à investir davantage dans des nouveaux forages, etc. Mais la logique, c'est là où on est dans un paradoxe qui est totalement délirant dans ce télescopage des horizons. C'est qu'évidemment, plus on va manquer de pétrole, plus ces entreprises vont faire des profits absolument considérables. Donc moi, si j'avais un conseil d'investissement à donner aujourd'hui...
Investissez dans le pétrole.
Ah mais massivement.
Massivement. Et d'ailleurs, le seul pays qui va continuer à le faire massivement, c'est la Chine.
Ouais.
Parce qu'ils ne se donnent aucune contrainte en matière d'investissement dans les énergies fossiles, au contraire.
Merci à tous les trois. Merci Virginie Robert, présidente de Constance Associée, Marc Fiorentino et Emmanuel Le Chypre d'avoir inauguré cette nouvelle formule du Grand Débat.